Merci beaucoup. Hein. Ces trois propositions fascinantes. Donc, vous avez sans doute beaucoup de questions. Moi, je ne vais pas grignoter sur ce temps, même si j'en ai aussi. Mais enfin, je vais d'abord vous demander à tous de vous manifester si vous avez des questions.
Peut-être Florence et Georges, ouais. Vous pouvez prendre notre place.
Oui. Alors, des questions tout de suite, parce que sinon, moi j'en ai une qui me brûle les lèvres en fait depuis tout à l'heure pour Georges, et elle est toute simple. C'est quoi pour vous un avatar? Parce que vous en avez beaucoup parlé, et moi c'est aussi une question qui m'intéresse beaucoup, donc j'aimerais bien connaître votre, pas une définition, mais enfin une, si vous pouvez circonscrire ça un peu, ce que ça veut dire pour vous et dans votre démarche en fait.
Dans la démarche du rapport d'un acteur physique à une représentation de lui-même dans un espace virtuel, l'avatar, on pourrait le considérer comme une sorte de sculpture matrice, qui peut potentiellement adopter toutes les positions physiques dans l'espace, qui n'est pas forcément réaliste, par rapport auquel on va essayer de transférer un certain nombre de mouvements qui peuvent s'appliquer à son corps, à ses expressions faciales, pour en faire une entité qui va après avoir une expression et éventuellement portée de manière vicariante, faire comme si elle pouvait porter des émotions, et par rapport auxquelles, par exemple, on peut imaginer effectivement des logiciels qui sont fortement mathématiques et inspirés de ce qui était décrit par rapport à la finance, mais qui sont appliqués à des problématiques plus de simulation, comme le mécanisme du jeu de la vie, pour arriver à dépasser le stade de la pure marionnette, et d'arriver jusqu'à ce fantasme d'acteur autonome. Mm-hmm. Donc, et c'est une vision très très réductrice en termes, disons, de domaine plutôt théâtral, quoi. C'est-à-dire qu'on essaie de représenter une entité qui peut porter une expression entre guillemets vivante, même si c'est complètement abstrait. C'est toutes les personnes qui fabriquent, qui sont dans le cœur de la fabrication de ce type d'avatar, sont que dans le vicariant, c'est-à-dire que ça n'est pas du tout vivant. L'intelligence artificielle est quelque chose de très toujours focalisé, et ça reste assez restreint comme approche, quoi.
Mais en fait, cette histoire que vous tissez là entre la marionnette jusqu'à l'acteur autonome, et puis cet avatar quelque part entre dans les franges, enfin dans les milieux, ouais, je trouve ça très intéressant, ouais. Ouais. Ouais.
Oui,
Nadine.
Une question qui peut croiser entre les deux. Est-ce que vous regardez encore Netflix? S'il y a un film qui est sorti, c'est Her. Je ne sais pas, c'est sur l'intelligence artificielle. Non, vous ne l'avez pas vu?
Her, avec Al Pacino.
Oui, ouais. Oui, voilà. Et là, c'est un peu... j'aimerais bien avoir votre avis, après vous aussi, bien sûr, c'est sûr, puisque là, ils ont une bonne plasticité de critiquer l'intelligence artificielle, mais en même temps, quand j'en discute avec les jeunes, ils disent que c'est une manière de vivre aussi. J'aimerais bien avoir votre recueil, votre avis, vous l'avez vu?
Moi, je n'ai pas vu, donc je vais laisser peut-être Georges répondre à ça. Je vais juste faire un petit truc sur... Quand tu parles de de la critique que fait Netflix de son propre système.
De l'intelligence artificielle.
Ouais,
là, par rapport à l'environnement numérique.
Ouais, alors je laisse Georges répondre.
Alors, c'est, je crois pas c'est avec Al Pacino, c'est avec la voix de Scarlett Johansson en tous les cas.
Oui,
c'est Joaquin Phoenix. Et c'est
Joaquin Phoenix, voilà.
Ah, voilà. Ouais. Oui, je trouve qu'il y a d'intéressant dans Heure, c'est la conclusion. Alors, je vais pas spoiler parce qu'il y en a peut-être qui vont regarder. Mais on aboutit dans la conclusion à une sorte d'évanescence de l'intelligence artificielle qui atteindrait un stade quasiment divin. Et ça rejoint un peu les problématiques qui étaient figurées dans le spectacle Rock Trading, avec cette question d'oracle, cette question à un moment donné de basculement dans une forme d'irrationnel qui redevient tout à fait humain et par rapport à laquelle on a une sorte de folie de la machine, mais qui n'est qu'une sorte de miroir finalement aussi d'une sorte de folie humaine. Et ça fait aussi un peu référence au Nécromanceur, l'ouvrage un peu, disons, maintenant mythique de cette préfiguration d'une sorte de dépassement de l'intelligence artificielle, comme tu disais, avec la question de la série. C'est vrai que maintenant, ça devient très corporel, très physique. Et donc, Gibson avait réintroduit cette question du vaudou, donc d'une intelligence artificielle qui redeviendrait, du coup, très, très magique pour les humains. Et comme une forme de nouveau dieu, ne faisant que repréfigurer finalement ce qu'avait été la précédente technologie, disons, avant le numérique, c'est-à-dire l'écriture, qui avait créé les livres, qui avait créé les religions, qui nous ont aussi bien pris la tête, qui continuent à nous prendre la tête, quoi. C'est-à-dire que les outils technologiques fabriquent quand même des entités qui dépassent les humains, qui les repilotent de l'extérieur en créant une sorte de transcendance. Donc ça, c'est pas tout à fait nouveau. Le nouveau avec le numérique, d'une certaine manière, c'est une sorte de fluidité qui semblerait être un tout petit peu plus entre les mains de l'humain dans sa question de calculabilité, quoi, qui est comme le gros projet de la cybernétique à la fin du siècle, au milieu du siècle précédent. Et je trouve fascinant, en fait, voilà, c'est peut-être des nouveaux Jésus qui vont exister, écrits non plus avec des mots, mais avec du code qui sera un petit peu plus fluide et certainement un peu plus pénétrant. Alors, qu'est-ce que vont faire les humains par rapport à ça? Bah, je sais pas. Après, il faut que par rapport à la thématique du code, de ces journées d'études, on rende tout le monde très, très conscient de tout ça, comme un pharmacon qui fait que ça nous transforme et que comment on continue à pouvoir se l'approprier, en vivre, le dépasser. C'est une vaste question et voilà, il faut répondre.
C'est intéressant ce que tu as dit très rapidement sur les séries et leur critique incorporée. Mm-hmm. Parce que c'est vraiment, je crois que c'est quelque part presque le meilleur moyen pour orienter la critique. Hein?
La question de la critique commence à devenir importante dans le travail que je mène. Mm-hmm. Je mène une recherche là-dessus dans quelques mois parce que je ne sais plus où c'est possible, en fait, d'avoir une position critique sur quelque chose. Je ne trouve plus l'endroit de cette position-là. Dans ce monde de la fiction, est-ce que je continue à regarder des séries Netflix? Oui, mais je pense qu'effectivement, tout ce travail qui a été fait... Enfin, quand tu parles de rendre conscient, Georges, je pense que c'est juste... Je pense que quand on travaille sur ces choses-là, ce qu'on désire faire, c'est quand même mettre à jour des filtres, quoi. Enfin, moi, c'était mon désir, c'était de mettre à jour des filtres et de dire, il y a tous ces filtres, je ne les juge pas, mais je désire mettre à jour leur existence. Je désire les montrer, quoi, les dévoiler d'une certaine manière. Et c'est compliqué que les producteurs de ces filtres soient ceux qui veulent nous les démontrer, quoi. Et donc, c'est... Parce que ça fait quelques années maintenant que je travaille avec des danseurs. Et il y a quand même un corps qui est généré par ces questions. Et on le voit dans ton travail, mais on le voit aussi dans le travail de Georges. La question du corps là-dedans, elle commence quand même à devenir majeure. Enfin, pour moi, c'est quand même... Qu'est-ce qu'on fait de nos corps, en fait? Qu'est-ce qui reste de nous, de notre corporalité, de notre charnel, de... Quel corps ça génère J'ai beaucoup de conneries, alors je vais essayer de rester simple, mais non, mais
tu es humaine.
Le fait de se mettre devant des écrans, ça crée un certain corps quand même. Je veux dire, de consommer ces trucs, je parle vraiment du point de vue de là où je suis de la série, hein, je parle pas des Et quand je parle avec le danseur avec qui je travaille, qui est un danseur de chez Pinabache, enfin, je veux dire, c'est grosse carrière, là, grosse expérience, grosse histoire dans le monde de la chorégraphie, là. Et quand je parle avec lui, il me dit, oui, bon, le corps, ce grand absent de la société, quoi. Et oui, oui, regardons nos corps aujourd'hui, regardons à quoi ils sont réduits, regardons l'architecture de ce lieu, regardons, enfin voilà, c'est là que c'est, je prends le métro pour venir ici, j'ai pris le Thalys pour venir ici, regardons où ils sont nos corps. Et donc, je ne sais pas où je suis arrivée là.
Justement, peut-être pour te relancer.
Ouais.
Parce que j'étais assez saisie, parce que tant dans ta démarche que dans celle de Marielle, bon, il y a à la fois un humour qui est à l'œuvre, ouais. Une capacité corrosive comme ça de dénonciation, et en même temps, vous ne cessez, bon, un peu comme ça, je ne sais pas si c'est par coquetterie, de nous dire vous ne jugez pas. Or, vous nous balancez quelque chose qui est plutôt une vision du monde plutôt terrifiante. Moi, j'ai cru que... Enfin, j'étais encore dans une perspective romantique où je pensais qu'il y avait toujours les méchants traders sur lesquels on pouvait se dire que dans la lignée de défense de nazis, hein, c'est-à-dire que je faisais partie d'un système et je n'obéissais les ordres, mais bon, c'était mal conçu, le système, donc ça a fait du gâchis, mais enfin, les lignées de défense des nazis, les Khmers rouges, etc., c'était celle-ci. Donc c'est un petit peu terrifiant de ce que vous énoncez, que ça a été remplacé par des algorithmes sur lesquels on ne peut plus trouver de responsabilité, contre lesquels se battre, et qu'on a mis un truc qui s'emballe comme ça, c'est plutôt cauchemardant. Alors, en même temps, je pense qu'il y a quand même une entreprise chez vous de résistance, en tout cas, de ta part, de contre-narration face au storytelling.
Ouais, oui.
Donc, il y a... comment vous revendiquez cet acte de résistance qui m'a fait penser tout à l'heure à ce que disait, peut-être de manière un petit peu visionnaire dans son temps, il y a quand même de ça, maintenant ça remonte avant le 21e siècle, par Antoine Vitesse, qui prenait l'acte théâtral comme lieu de laboratoire pour inventer de nouveaux gestes face au comportement stéréotypé tel qu'il était véhiculé sur tous les écrans de télévision du monde. Là, bon, ça c'était l'époque justement des prémices de mondialisation, on n'était pas encore à l'ère du numérique, on était simplement à l'ère télévisuelle. Mmh. Mais il y a quand même quelque chose comme ça où il y avait cette aspiration à résister pour inventer de nouveaux gestes. Voilà, c'est ce que je citais. Donc comment est-ce que peut-être vous vous situez par rapport à ça? Parce que tu t'es dit, je propose justement des filtres. Il y a aussi ce qui a été dit, évidemment, cette capacité néolibérale à toujours réintégrer son propre autocritique. On l'a vu aussi dans la Biennale en art contemporain, de la Biennale de Venise, etc. C'est-à-dire générer sa propre autocritique, et qui fait que du coup ça désamorce toute possibilité de constatation, et on est dans cette dérive-là.
La question de la résistance, c'est un peu la question de tous les jours, quoi. Je veux dire, par où je passe pour travailler, par où je passe pour essayer d'être au plus près des préoccupations. Ma prochaine pièce s'appelle « Une fiction lucide, optimiste, non excluante et tragicomique ». Je peux vous dire que de faire se cohabiter la notion d'optimisme et de lucidité, c'est pas hyper simple. Je pense que la résistance, elle vient de ne pas se laisser faire par la peur, de ne pas se laisser faire par les systèmes de... En fait, il y a plusieurs niveaux. Il y a des niveaux très, très concrets qui sont ne pas se faire avoir par des systèmes de production, tenter de trouver des partenaires de travail avec qui on peut vraiment construire quelque chose et pas se retrouver pris dans la machine de l'industrie culturelle, qu'on, par ailleurs, on essaie de démonter ou dénoncer, ce qui nous met tout le temps dans des positions complètement schizophréniques. Enfin, je veux dire, on essaye de parler d'un monde, mais on doit complètement se soumettre à ce monde pour le financer. cette pensée, pour financer cette pensée, ce qui me met dans des situations très schizophréniques. Donc déjà, il y a la gestion de cet endroit-là, comment être le plus auprès de comment on se sent et de trouver des collaborations à cet endroit-là. Je dirais, le challenge que moi j'ai pris là sur la prochaine création, donc je suis là-dedans, je dirais à peu près depuis 2 ans maintenant, c'est la notion de la collectivité, de la collaboration. J'ai beaucoup travaillé seule et je pense qu'à un moment donné, mon endroit de la résidence, il était de dire, bon, maintenant, ça suffit, il faut partager les idées un maximum. Et donc, ça veut dire avoir des plus grosses équipes, trouver des plus gros financements pour ça. Ça veut dire essayer de travailler avec d'autres vocabulaires. J'ai répondu à des commandes avec des gens que je ne connais pas du tout, travailler avec des gens que je ne connais pas du tout, essayer de casser les familles, casser les bulles algorithmiques dans lesquelles je suis prise. Des bulles algorithmiques théâtrales, parce qu'il y en a, on est tous pris dans des bulles algorithmiques, donc c'est comment les casser, comment travailler avec des gens qui ne sont pas de mon propre avis, comment essayer de trouver des endroits où j'ai pas l'impression d'être dans une forme de confort, un peu attaquer l'ego aussi, et c'est pas si simple quand on est artiste, parce qu'on est tout le temps amené à se vendre. Donc j'entendais Laurie Anderson, qui a quand même quelques années de plus là que nous.
Ah oui,
que Laurie Anderson disait, moi, la résistance, elle dit, j'ai l'impression que juste d'essayer de résister à la notion de branding, de ne pas faire de soi une marque, c'est déjà la résistance. Maintenant, on a tous passé nos trailers, on a tous nos noms qui sont grands dessus. Et on a tous des marielle.sar.com ou des florencemider.com, on a tous ça. Et donc, quand elle a dit ça, je me suis dit, ah ouais, tiens, qu'est-ce que ça voudrait dire, ça, pour moi, aujourd'hui, de résister à être une marque, là où, pour avoir des financements, comment je fais, en fait? Comment je fais pour résister à cet endroit-là? Puisque dans tout dossier de subvention, on va me demander où j'ai tourné, comment j'ai tourné, les articles de presse, où j'en suis, combien, machin, bazar. On en est presque aux followers, enfin, je veux dire, on en est presque là. Et les théâtres ne sont pas dans notre défense, puisque les théâtres eux-mêmes sont complètement soumis à cette machine.
L'université aussi, on se reconnaît totalement dedans.
Mais en fait, tous les endroits de recherche, en fait.
Ouais.
Tous les endroits liés à la recherche.
Marie, c'est important que tu répondes, parce que c'était une des questions que je n'ai pas pu lui poser, mais ce pourquoi son spectacle était fascinant à regarder, entre l'humour, le corrosif et tout ce qu'on a vu, c'était vraiment à l'endroit de l'humain. C'était vraiment à l'endroit où elle mettait 8 à 10 personnes sur ce plateau. Nous, on a travaillé avec Julien Bourguignon qui est là-bas au Tarmac et on avait nos étudiants de Paris 8. Elle a réussi à mettre sur le plateau un des étudiants en drag queen, en Nina Hagen. C'est-à-dire il y avait une inversion de la proposition dans le besoin de raconter des fictions qui faisait que le rapport entre homme et machine était court-circuité par son spectacle qui était très décalé. Donc c'est vrai que la notion de résistance, on n'a pas pu en parler, c'est bien que tu nous
parles. La notion de résistance, oui, où est-ce qu'on se situe par rapport à ça, c'est plutôt plus intéressant pour moi. Parce que moi, je ne me situe pas tellement. J'attends, je suis un algorithme qui attend. Donc j'attends, je mets en scène 8 à 10 personnes, comme je dis, fonctionnent un peu avec une logique, puisque je travaille à la base sur la biographie des gens, vraie ou fausse, mais en général vraie en ce moment. Donc chaque acteur qui est chez moi vient raconter sa propre histoire, sa propre vision de la finance. Alors, il y avait des gens mais super calés, la dette là, dans le spectacle aux dettes, elle s'y connaissait super bien en monnaie parallèle et tout le truc. Elle suivait aussi des grands, grands économistes comme John Holloway, qui explique que le capitalisme, c'est une chose dont il ne faut jamais parler, parce que sinon on devient son acteur principal. Et donc, du coup, on n'avait pas prononcé le mot « argent » sur scène une seule fois en 2 heures, ce qui était très, très compliqué. Mais du coup, le fait d'attendre et de proposer vraiment aux gens de me donner leur avis, et moi, je n'écris pas l'histoire, c'est eux qui écrivent l'histoire. Je les mets sur scène avec chacun leur histoire. C'est très difficile après à en faire un spectacle, parce que c'est forcément contradictoire, et c'est là où je me situe. C'est en écoutant comment chacun donne son avis à mon spectacle. C'est le bordel intégral. Personne ne comprend rien à mes spectacles. Et c'est là que ça devient intéressant. Parce que moi, la messe, je l'ai beaucoup faite. Hein. J'étais à la messe jusqu'à 16 ans avec ma mère. Je ne peux plus la messe. Hein. C'est surtout, je pense, c'est l'histoire de la messe. J'en peux plus de la messe. Et je pense que c'est l'endroit où je me situe. Donc, je réécoute monsieur le curé. Franchement, un metteur en scène, c'est un peu monsieur le curé, quoi. Ou madame le curé, quoi. Donc, puis les gens, ils viennent souvent attendre un peu qu'on leur donne un avis pour se faire le leur. Et ça, ça me dérange. Mais l'histoire, là où je me suis située quand même dans le spectacle, il y a un moment donné, c'est quand même dit, c'est que vraiment, ce qui me fascine, c'est que l'histoire de l'homme, si on continue de la raconter, il existera toujours. Et c'est pas, je suis absolument pas dans une vision négative de l'homme. Mais par contre, l'histoire de l'algorithme, on la connaîtra jamais. Ils racontent leur histoire, on la connaîtra jamais. On ne connaîtra jamais, puisqu'on a vu qu'ils interagissent entre eux, sans qu'il n'y ait plus aucune intervention humaine. Et cette histoire, on ne la connaîtra pas. Et ça me fascine, ça, plus que ça ne me rend folle. Il y avait l'histoire du golem aussi, parce qu'il y a aussi. J'étais quand même élevée dans les comics américains, hein, tous les super-héros. C'est à un moment donné, le monstre dépasse l'homme qui l'a construit ou la femme qui l'a construit et devient une chose ingérable. Ça, c'est le golem, hein, c'est vraiment la tradition juive. C'est vraiment. C'est une figure qui avait été créée pour aider le peuple juif à se protéger. Et il échappe à son créateur et devient un monstre ingérable. Donc je vois ça un peu comme ça quand même dans mon éducation liée aux comics, surtout américains. Voilà, donc ça c'était un peu ma position quand même. C'est un peu mes peurs, mes peurs d'enfant. Mais en tant qu'adulte, j'ai pas peur, moi. Tant qu'on racontera nos histoires, et ce qui est aussi une fable hassidique, on saura être encore là. Donc c'est quand même super, quoi. Et puis surtout, on peut faire les cons, hein, puisque les algorithmes sont très intelligents. Faisons les imbéciles, racontons n'importe quoi, racontons des histoires, mais n'importe lesquelles, du moment qu'on en raconte une, on sera vivant. Et c'est ça qui m'enchante, moi. Plutôt que me positionner ou de me demander de faire la critique éventuelle de ce monde-là, ou de comment je me situe par rapport à ça, moi je m'en contrefous. Et comme je n'arrive pas à regarder Netflix, je suis quand même déjà un peu en marge de la société. Quand tout le monde parle de la série, bon, ben moi, je demande ce qu'on va manger. C'est un peu provocation, mais pas vraiment. Hein. Je vis vraiment comme ça. Ouais.
Très belle transition vers le café. Merci infiniment. Et on fait une mini pause, je suppose. Pour ne pas trop... Ouais. On prend 10 minutes, un petit café, et on enchaîne avec la table ronde.
Merci beaucoup. Hein.